bonsoir, merci d'être là. Donc c'est la quatrième séance ce soir qu'on fait de ce cycle d'histoire sociale, en essayant de faire en sorte que chaque séance soit autonome, de façon à ce qu'on soit quand même pas obligé de revenir à chaque fois pour y comprendre quelque chose, mais en essayant toujours d'avoir quand même un fil directeur. L'émergence de la question sociale au 19e siècle, on a vu, enfin au 19e, 20e siècle, on a commencé par le 19e, mais on va passer après au 20e siècle. Là, on va faire pas tout à fait la dernière séance sur le 19e, là on est à l'articulation des deux siècles, et surtout il y aura une séance, je l'ai dit la dernière fois, la prochaine fois je crois, au mois de mai, enfin ça sera annoncé sur le site, consacrée à la Commune de Paris qu'on va organiser avec les amis de la Commune et les historiens qui l'animent, enfin entre autres, mais donc il y aura une séance particulière. Moi j'ai un petit peu sauté dessus, le sachant, alors que c'est un épisode évidemment très important pour l'émergence du mouvement ouvrier français, mais on y reviendra en tant qu'événement lui-même. J'en parlerai un tout petit peu aujourd'hui, parce qu'évidemment, le caractère tardif du syndicalisme français ou du socialisme français s'explique aussi par la chape de plomb qui est tombée sur le mouvement ouvrier après la répression de la Commune et qui a duré plusieurs années. Donc ce soir, on va parler de l'émergence du syndicalisme. Je l'ai un peu laissé de côté la dernière fois, je m'étais centré plutôt sur le mouvement des idées en matière sociale et politique qui caractérise le tournant du siècle, disons le début de la Troisième République, en expliquant aussi le contexte qu'on va retrouver ce soir, qui est celui des lois sociales, enfin, très connues comme l'émergence des législations sociales en France, mais aussi un monde ouvrier qui vit dans des conditions difficiles et surtout une répression des mouvements sociaux et même du syndicalisme quand il émerge. Assez fort. Alors, on ne peut parler raisonnablement de syndicalisme qu'à partir... alors, il faut évidemment périodiser toujours. Avant la moitié du 19e siècle, on est dans des formes un peu des proto-organisations du mouvement ouvrier. Disons, les historiens s'accordent pour dire que la question de l'organisation ouvrière se pose à partir des années 1830. Évidemment, le syndicalisme, comme vous le savez, est une création du monde ouvrier. Ça vient de la classe ouvrière, même si après, tardivement dans le XXe siècle, c'est une forme sociale, une forme de défense qui va se banaliser dans la société, s'étendre d'abord aux employés, aux fonctionnaires, et puis après la Seconde Guerre mondiale, il va s'étendre à toutes les catégories sociales. Et aujourd'hui, après tout, qui, à part les préfets, n'ont pas de syndicat? Les policiers, les médecins, les avocats, les dentistes, etc. Absolument tout le monde a un organe de défense, mais à l'origine et pendant très longtemps, c'est une forme propre qui vient du monde ouvrier. Donc il a émergé avec l'émergence de la classe ouvrière, c'est-à-dire dans les pays de société industrielle, et la France n'échappe pas à ça. Donc le syndicalisme est né aussi à la même vitesse, ou plutôt avec la même lenteur que s'affirmera la révolution industrielle dans le 19e siècle français. Avant, sous l'Ancien Régime, on ne peut évidemment pas parler... Il y a des organisations collectives, vous savez que le travail est organisé à travers les corporations. Il y a d'autres ordres un peu qui sont illégaux d'ailleurs, qui sont les sociétés de compagnons. Le compagnonnisme existe avant la Révolution, il est d'ailleurs illégal, il va persévérer au cours du 19e siècle, voire assez tard dans le 20e, plutôt à des titres de tradition, mais en tout cas, dans un certain nombre de métiers, le colportage évidemment est l'exemple type, mais même le textile, etc., dans certains métiers, le compagnonnage est resté assez longtemps une forme d'organisation du travail, au fond, comme les autres. Donc, vous savez que le problème fondateur pour le syndicalisme, c'est la Révolution française, c'est le décret d'Allard et la loi Le Chapelier qui interdisent toutes les coalitions. Coalition et les organisations de salariés. La coalition, ça définit la grève pendant très longtemps. Hein. On va y revenir. Mais bon, donc interdiction, abrogation des corporations, c'est le décret d'Allard, et la loi Le Chapelier interdit de se regrouper au nom des prétendus intérêts communs. Hein. C'est la formule utilisée par la loi Le Chapelier. Il ne s'agissait pas, évidemment, pour les révolutionnaires d'opprimer les ouvriers, au contraire, de libérer l'accès au marché du travail, dont, enfin l'accès au travail, on ne peut pas encore parler justement de marché du travail, mais l'idée est de créer un libre accès au travail qui était censé résoudre la question sociale, je l'ai déjà évoqué. Mais évidemment, ces règles deviennent oppressives dès lors que la question de l'organisation des travailleurs, lorsqu'ils chercheront à faire pièce à la loi des patrons, d'autant que l'interdiction de se réunir au nom des prétendus intérêts communs est assez diversement interprétée. Toujours négativement lorsqu'il s'agit des ouvriers, par contre les tolérances sont assez grandes lorsque les employeurs s'accordent entre eux, notamment pour régler le tarif. Et assez vite, on va avoir une aggravation de ces deux textes, notamment le Code civil. Il y a encore une loi en 1803. Les lois d'Empire vont être assez... alors, 1803, c'est juste avant. C'est l'Empire. Qui va commencer par aggraver les peines en cas de coalition, dont si on se rendait compte qu'il y avait une coalition plus ou moins à ciel ouvert. Et le Code civil établissait qu'en cas de conflit, le patron était réputé avoir raison. Donc la voix du patron l'emporte. Et vous savez qu'à l'époque, il y a trois modes d'encadrement du travail pour les ouvriers, le livret ouvrier, le règlement d'usine et les conseils de prud'homme qui ont été instaurés sous Napoléon Ier et par Napoléon Ier. Mais ce sont à l'époque des conseils de prud'homme qui sont uniquement organisés et les juges sont uniquement patronaux. La parité des conseils de prud'homme, c'est pour plus tard. Donc évidemment, on se rend compte de l'inégalité fondamentale dans le contrat de travail, puisque systématiquement, le point de vue patronal est privilégié. Alors, on commence à sentir le problème à partir des années 1830. C'est là que commence à monter un peu une classe ouvrière, alors essentiellement urbaine à l'époque, dans les métiers de l'artisanat urbain. On commence à avoir quelques usines, les mines, les usines à la campagne, notamment dans le textile. Les gens sont assez disséminés. Et évidemment, les premières formes qui vont s'organiser émanent plutôt de ce qu'on appelle les gens de métier, les ouvriers urbains, souvent assez qualifiés d'ailleurs, et souvent parfois aussi les organisations compagnoniques qui vont jouer un rôle de diffusion de ces modes d'organisation. Alors, les grèves se répandent à cette époque-là. Les années 1830 sont assez favorables à la grève. Vous savez, je l'ai déjà dit, les grèves sont bien antérieures à l'existence des syndicats. Les grèves sont aussi vieilles que le travail. La grève est une forme liée au travail, non pas au syndicalisme. Et l'arrêt de travail est contemporain du travail. Donc, c'est une manifestation assez ancienne. Et le 19e siècle commence à voir monter un certain nombre de grèves dans le monde ouvrier. Les seules organisations autorisées, c'est les sociétés de secours mutuels. Il n'y a pas de sécurité sociale. Évidemment, ce qui est autorisé, c'est la possibilité, mais pas en trop grand nombre, pour les ouvriers de se mettre ensemble, de cotiser à une caisse collective qui permettra d'assurer la continuité, ou presque, en tout cas d'éviter les ruptures de revenus trop fortes en cas d'accident, en cas de maladie, etc. Donc ces formes-là sont autorisées. En même temps, elles sont très surveillées parce que les animateurs de ces caisses de secours sont souvent les mêmes qui, le soir, animent les cercles républicains, bien entendu interdits. Et aussi parce que ces caisses de secours servent aussi de caisses de résistance. Parce que paré aux aléas de l'existence, bon, la maladie, l'accident, le veuvage, tout ça est bien facile à détecter, mais la grève, est-ce que c'est un aléa de l'existence et que doit faire la caisse de secours dans ce cas? Alors, comme la coalition est interdite, il va de soi que la caisse de secours est réputée ne pas assurer la continuité du salaire en cas de grève, mais dans la pratique, on se débrouille. Et en général, on se rend compte que ces caisses servent très souvent, y compris à animer les coalitions. On le voit par exemple dans la grande grève de 1834. Il y a un auteur de référence, c'est Édouard Doléance, un vieil historien du mouvement ouvrier qui a écrit un... Alors celui-là, vous pouvez le trouver sur Internet, il est en téléchargement, son histoire du mouvement ouvrier, Doléance, sur le site de l'UQAM, l'Université du Québec, qui numérise un certain nombre de textes. Et si vous tapez dans un moteur de recherche UQAM, UQAM et Doléance, vous tomberez sur son histoire du mouvement ouvrier, qui est assez agréable à lire. Et il montre bien, il détaille d'ailleurs, avec un grand luxe de détails, ces conflits, et notamment les grands conflits de Lyon, 1831, la révolte des Canuts, ou 1834, une révolte bien plus large, dans lequel on voit bien les sociétés de résistance, les sociétés de secours mutuels et les sociétés compagnoniques, on les voit à la manœuvre dans l'organisation de cette conflictualité. Donc le regard des autorités est plutôt suspicieux à l'égard de ces formes dont on sent bien qu'elles sont le cœur de la première organisation des ouvriers. Au point d'ailleurs, je passe sur 1848, on en a parlé, c'est le moment d'émergence du mouvement ouvrier au grand jour, c'est-à-dire la liberté d'association, de manifestation est accordée pendant quelque temps, première loi sociale, réduction de la durée du travail, etc., qui pendant cette courte période, ce printemps du social, on dirait, a fleuri, et c'est le moment où on voit des grandes manifestations ouvrières à Paris, à Lyon, à Marseille, qu'a décrit, je cite encore, William Sewell, qui est un historien américain, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Gens de métier et révolution », qui traite de cette période-là et qui montre bien tout ce qui se passe, c'est à propos de 1848, dans le monde ouvrier, c'est vraiment l'émergence avec la reconnaissance du droit au travail, etc. On a consacré pratiquement une séance à ça. Et ce mouvement repart aussitôt à la clandestinité, et la répression des journées de juin 48, qui sera poursuivie et accentuée après le coup d'État de Louis-Napoléon en 1851, va décapiter ce mouvement ouvrier qui a émergé au moment de 1848, et c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière, que le mouvement ouvrier français doit redémarrer pratiquement à zéro, sinon presque, son organisation même clandestine. Je passe sur l'Empire, on en a parlé, simplement pour mentionner un fait qui est la loi de 1852, une loi impériale, donc de mars 1852, qui vient capter le mouvement mutualiste, parce que l'empereur, qui n'était pas tout à fait un imbécile, avait bien vu que c'était une forme d'aide à l'organisation, à la résistance ouvrière, que ces caisses mutuelles. Il les a donc captées en inventant le système des mutuelles agréées, c'est-à-dire que pour pouvoir exister au grand jour, les mutuelles devaient être validées par le préfet, par l'État donc. Et ces mutuelles reconnues s'opposaient à des mutuelles qui ne l'étaient pas, qui ont pu continuer à exister, mais avec des difficultés, d'autant qu'on avait même inventé une aide fiscale à ceux qui adhéraient à ces mutuelles. Et il a placé les mutuelles agréées sous le contrôle des notables locaux. Et donc, il a, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'en réalité, la mutualité va pouvoir, y compris sous l'Empire, grandir, faire beaucoup d'adhérents, et lorsque la République va arriver, ces mutuelles vont d'ailleurs progressivement se fédérer hein, dans une fédération nationale de la mutualité française, va s'acclimater très vite aux mœurs de la Troisième République, et le mouvement mutualiste va être une véritable force sociale, qui va d'ailleurs s'adosser à des courants politiques que je les ai évoqués la dernière fois, le solidarisme de Léon Bourgeois, cette pensée des républicains bourgeois qui pensent à la solidarité s'accommode très bien hein, de ce mutualisme. Et en réalité, le mouvement ouvrier perd le contrôle du mutualisme, et c'est une coupure qui est durable. Au moment où le syndicalisme va être légalisé, eh bien les mutuelles sont déjà très puissantes et hors d'atteinte des syndicats. Bismarck a fait un peu la même chose en Allemagne quand il a vu que les syndicats, autour de 1870, que les syndicats s'adossaient à cette activité d'assistance mutuelle, il les a coupés du mouvement ouvrier. Mais après le congédiement de Bismarck, en 1890, les syndicats ont remis la main très vite sur le mouvement mutualiste. Et du coup, en Allemagne, le syndicat a pu prendre une expansion en englobant dans son air cette fonction de service tout à fait considérable. Et quand on parle aujourd'hui du fait que les syndicats français ne sont pas adossés à des activités de service, la coupure, elle est là. Elle est en 1852 et jamais ils pourront remonter la pente, ce qui n'est pas le cas des syndicats nordiques, des syndicats belges, des syndicats, en gros, tous ceux qui ont un taux de syndicalisation très élevé. Hein. En fait, quand on regarde la carte des taux de syndicalisation, vous pouvez toujours trouver derrière les services mutuels qui sont la plupart du temps associés à l'activité syndicale. Et là, les lois impériales ont coupé durablement le syndicalisme de cette possibilité. Alors, c'est une période évidemment un peu de basse eau qui va pour l'action collective, pour le mouvement social, qui va un petit peu se débloquer dans les années 1860, à la fois parce que les exilés reviennent et puis parce que l'Empire desserre un peu les taux. Et avec l'accélération de l'industrialisation du Second Empire, les années 1860 commencent à voir monter véritablement la question de l'organisation des chambres syndicales. On commence à parler de chambres syndicales, elles sont toujours évidemment illégales, mais en 1862, l'empereur a autorisé une délégation à se rendre à Londres, à l'exposition universelle, une délégation d'ouvriers qui ont été désignés par leur père. Et à la fois d'ailleurs pour qu'ils découvrent l'industrie, parce qu'en Angleterre, hein, c'est l'atelier du monde à cette époque-là, donc ils découvrent l'efficacité industrielle qui fascinait Napoléon III, et puis aussi, évidemment, un peu comme à titre de compromis avec ce groupe des ouvriers. C'est Bronzier Tollin qui dirige la délégation. Ça va être un moment important parce que les ouvriers français reviennent avec l'idée d'organisation, ils rencontrent à Londres, bon, Marx, Engels, qui y sont, les unions britanniques, qui, eux, ont déjà une certaine ancienneté, puisque les syndicats en Angleterre ont été reconnus en 1824, donc ils ont déjà une histoire, ils cherchent à se regrouper, et en plus, autour des années 1860, ils sont dans une période de regain d'activité militante, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais il y a des grands cycles hein, d'activisme dans le syndicalisme britannique, et quand les ouvriers français sont là-bas, c'est justement un moment intense de lutte sociale en Angleterre. Donc ils reviennent avec un certain nombre d'idées. Ils ont aussi enquêté dans les professions. D'Oléans publie un certain nombre de cahiers tenus par les ouvriers qui ont rencontré leur père dans les différentes professions. Ils se tournent vers l'empereur avec des revendications. et notamment celle du droit de coalition, du droit de grève. Et l'empereur autorise, et finalement il va y avoir, ce qui est assez singulier, cette loi de 1864, la loi du 25 mai 1864, dite de coalition, qui va permettre, qui va légaliser d'une certaine façon la grève. Alors dans des conditions qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple, la liberté du travail doit être respectée. Donc on n'a pas le droit d'entraver, on a le droit de ne pas venir travailler, de faire grève. Par contre, l'employeur, il a le droit d'embaucher des gens à la place pour vous remplacer. Donc c'est vrai que c'est un droit qui n'a pas une pleine puissance, disons. Mais en tout cas, c'est un premier accroc porté à la loi Le Chapelier. À partir de là, on commence à voir se développer les chambres syndicales. Et notamment, après 1864-65, vont se développer des sections de l'international. Puisque à Londres, c'est d'ailleurs à l'occasion d'un des déplacements de nos ouvriers français, là, on commençait à parler de la mise en place de l'Association internationale des travailleurs. Ça a été fait en 1864. Bon, alors, c'est un peu disparate, l'AIT, hein, c'est à la fois de syndicalisme constitué, il n'y a guère que les Anglais à cette époque-là, les unions, et puis ailleurs, il y a des partis politiques qui commencent à exister, des partis socialistes ou des embryons de partis socialistes, notamment en Allemagne, et puis il y a tous les exilés hein, de la Sainte Alliance, dont Marx qui est là-bas, et à qui on a confié d'ailleurs la rédaction de l'adresse inaugurale, donc du texte, la proclamation de foi un peu de l'Association internationale des travailleurs, et de ses statuts, hein, la fameuse phrase « prolétaire de tous les pays, unissez-vous », c'est par là que commence l'adresse inaugurale qui aura évidemment une résonance assez forte. Et la l'AIT va être vécue sur le continent comme une espèce d'agence à financer des grèves, etc. Dès qu'il y a un mouvement quelque part, l'AIT envoie un message de soutien, parfois quelques subsides, et il va y avoir des grands procès contre l'international, la main de l'étranger. Enfin, c'est une grande tradition qui commence, vous savez, quand il y a des grèves, c'est toujours la main de l'étranger. Donc là, déjà, on voyait, dans cette pauvre AIT qui n'était pas si puissante que ça, on voyait déjà, mais ce qui montrait bien que symboliquement, la lutte internationale des travailleurs avait une résonance et faisait trembler certaines parties de la bourgeoisie, même si tout cela ne représentait pas des foules immenses. Alors ce mouvement, cet essor, on le voit bien dans les grèves, hein, entre 1864 et 1871, on a une montée des grèves tout à fait significative, qui est liée à la fois à la montée du monde ouvrier et à ce desserrement de la contrainte légale. Et d'Oléance parle de cette période comme l'élan rompu par la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un élan du mouvement ouvrier qui se brise sur la guerre de 1870, et évidemment, on va voir après la Commune, puisque la guerre s'achève par... la Commune de Paris est un des épisodes hein, de la fin de cette guerre franco-prussienne, et à l'occasion de cette Commune, de ces communes on devrait dire, hein, parce qu'il y a une Commune à Lyon, il y a une Commune à Marseille, il y a une Commune à Narbonne, il y a une Commune dans plein de villes de France, et la répression de la Commune de Paris a donné le signal d'une répression massive du mouvement ouvrier qui va bien au-delà des communards, enfin de ceux qui étaient impliqués dans la Commune, et qui va durer en gros jusqu'en 1880. On est passible de l'exil pour avoir soit participé à la Commune, soit évoqué la Commune. Je parlais de Jules Guesde la dernière fois, instituteur du Nord, qui a été exilé, alors que lui était trop jeune pour connaître la Commune, mais dans son enseignement d'instituteur, il avait parlé de la Commune de Paris à ses instituteurs. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, cette répression et cet exil de nombreux militants, qui fait que le socialisme français prend son essor bien plus tard que, par exemple, en Allemagne, où, dès les années 1860, on commence à voir la fondation de partis socialistes, deux en l'occurrence, qui vont fusionner en 1875, et au congrès de Gotha, ceux qui ont un peu de souvenir de ça, il y a une critique du programme de Gotha, qui est un des ouvrages de Marx, hein, consacré à cette fusion politique. En France, en 1875, on est très très loin de penser même à l'existence de partis socialistes, et évidemment pas non plus de confédération syndicale. Alors dans cette période, le mouvement ouvrier se réorganise plutôt vers la fin de la décennie, hein, et là sous la forme de chambres syndicales. La République est proclamée en septembre 1870, proclamée un peu à la va-vite, et il y a 5 ans de débats qui vont conduire à l'adoption d'une constitution républicaine en 1875. Et à partir de là, la question de la reconnaissance légale du syndicalisme est un débat ouvert dans la société et dans la société politique, c'est-à-dire qu'à la Chambre, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, vont commencer un certain nombre de navettes qui vont durer 7 ans pour essayer d'ajuster une loi de reconnaissance des syndicats. Alors, les syndicats, ils sont déjà là, en réalité, là on est vraiment dans la formule de Jean Cocteau, vous savez, qui disait « Lorsqu'un phénomène vous dépasse, feignez d'en être l'organisateur ». Là, on est typiquement dans... Là, c'est-à-dire, les syndicats sont là, ils sont à peu près partout, et évidemment, il ne reste plus qu'à leur donner une forme légale, le droit va suivre le fait. Alors, sur quoi ça bute ? Ça bute sur le fait d'abord que le Sénat est peuplé de libéraux, pour qui le syndicalisme est une entrave au marché du travail, à la libre concurrence, donc des notions tout à fait inacceptables. C'est vrai d'ailleurs que les syndicats sont des entraves à la concurrence entre les travailleurs. On est en train de s'en rendre compte à travers le débat européen. À cette époque-là, c'est simplement la reconnaissance de son rôle dans l'espace national. Et puis, à la limite, on accepte très volontiers les syndicats au niveau local, comme les unions anglais, les syndicats de métiers, puisqu'on constate que les gens se regroupent à travers le métier qu'ils exercent. Le problème, c'est, est-ce qu'on accepte les unions de syndicats ? Est-ce qu'on accepte qu'ils se rassemblent au centre, qu'ils constituent des grands ensembles, des fédérations et pourquoi pas des confédérations ? Parce qu'alors, dit-on, si on admet leur regroupement, alors ils vont politiquer. C'est l'expression de l'époque. Alors, ils vont politiquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ils vont être une force sociale organisée, ils vont peser sur le débat politique. Et évidemment, en filigrane, il y a la question du socialisme qui commence, effectivement, la circulation des idées socialistes commence à être importante, même si les formes d'organisation ne sont pas encore là. Il y a une crainte, évidemment, que de ce monde ouvrier monte une force politique qui mettrait en péril les équilibres sociaux que la République tente d'installer avec difficulté. Alors on peut donc être surpris un petit peu de ce décalage, puisque en 1880, on compte 480 organisations ouvrières. C'est pas beaucoup, mais bon, pour quelque chose qui est illégal, on a d'abord pu les compter déjà. Je sais plus quelle est la source de ce décompte, mais enfin, le fait qu'on ait pu les compter montre qu'il y avait quand même déjà un minimum d'institutionnalisation. On estime que ça représente 64 000 adhérents. Il y a en gros 5 millions d'ouvriers à l'époque. Donc évidemment, c'est tout petit. C'est microscopique, mais c'est significatif. Et surtout, quand on voit ces chambres syndicales, elles concernent principalement les ouvriers urbains, de l'artisanat urbain que j'évoquais tout à l'heure, qui reste le cœur du mouvement ouvrier pendant très longtemps. Et même là où il y a de l'industrie de masse qui commence un peu à se développer, les mines dans le nord, le textile dans la campagne champenoise ou ailleurs, c'est encore les usines à la campagne. C'est très souvent un double travail fait par les familles d'agriculteurs, qui depuis très longtemps d'ailleurs ont des activités parallèles pour assurer leur fin de mois. Bon, c'est des univers qui ne sont pas encore très touchés par l'organisation. C'est principalement les ouvriers de métier, les plus qualifiés en général, qui organisent en milieu urbain cet embryon, ces chambres syndicales. Alors, à partir de 1880, d'ailleurs, on est tellement proche de la proclamation de la loi que les chambres syndicales commencent à se regrouper au niveau national et à créer des fédérations. Les chapeliers ont été les premiers. Il y a des grandes usines qui fabriquent des chapeaux à l'époque. C'est un lieu de quasi-industrie. Le livre aussi, évidemment, qui a une ancienne tradition, 1881, les verriers, etc. Et on retrouve d'ailleurs les traditions du contact compagnonique qui sert beaucoup à fédérer les organisations dispersées, enfin qui sert un peu, disons, comme facteur de rapprochement au niveau national. Donc quand la loi de légalisation des syndicats tombe en 1884, c'est une loi du 21 mars 1884 qu'on appelle la loi Valdec-Rousseau, parce que Valdec-Rousseau à l'époque est ministre de l'Intérieur et des Cultes, elle n'introduit pas une véritable rupture dans le rythme de constitution des syndicats. Bon, évidemment, ça va stimuler le mouvement. On va voir que dans les années d'après, le syndicalisme va se développer assez vite. Mais il légalise et il définit un rôle social des syndicats. D'ailleurs, ça donne l'occasion d'une définition. Le syndicat est un regroupement local de travailleurs dont la loi dit qu'il défend exclusivement les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Des travailleurs, pas de ses membres. C'est déjà une différence à la base qui va marquer le syndicalisme français pendant tout le temps. C'est ce qu'on appelle une conception essentialiste du syndicat. Le syndicat n'est pas réputé défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, mais de l'ensemble des travailleurs. On vit d'ailleurs toujours sur cette fiction un peu juridique. Tant qu'il n'y avait qu'un syndicat, c'était pas trop difficile à tenir, mais avec le pluralisme syndical, on continue malgré tout à considérer que chaque syndicat représente l'ensemble des travailleurs. On aura l'occasion plus tard d'y revenir. Mais en tout cas, la définition du syndicat, c'est une entité locale à base professionnelle. Au départ, le métier, essentiellement, c'est à travers les métiers que les salariés vont s'organiser. Et après, donc voilà le contexte un peu juridique, hein, l'évolution qui va permettre à ces organisations de fédérations de se développer dans la légalité après 1884 et aller vers l'organisation confédérée, puisque vous savez que par des étapes qu'on va voir, la CGT, la première centrale syndicale, va se constituer en 1895. Mais pour bien comprendre le mouvement qui va vers la CGT, et surtout la CGT une fois qu'elle se constitue, je crois qu'il faut faire un petit arrêt sur le mouvement socialiste en France. Parce qu'au fond, si on regarde bien, dans tous les pays étrangers, à part l'Angleterre qui a une trajectoire un peu particulière, mais dans tous les pays européens du continent, ce sont les partis socialistes qui ont créé les syndicats. Bon, je citais l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure, il y a cette unification au congrès de Gotha, et les deux partis socialistes qui préexistaient, les Lassalliens et les marxistes, pour aller vite, qui vont fusionner là, avaient déjà constitué avant, depuis 1868-70, des regroupements syndicaux à l'intérieur du parti. Et lorsque, au congrès de Gotha, il y a la fusion, il est dit, c'est une décision du congrès de fusionner les deux centrales syndicales. Bon, ça va mettre un peu de temps, mais en gros, lorsque Bismarck s'en va, ce qui va faciliter les choses, on va voir s'installer la Commission Générale des syndicats allemands. Et commission de quoi ? C'est une commission du Parti Social-Démocrate d'Allemagne. Ce modèle va se répandre, en Belgique c'est pareil, c'est le Parti Ouvrier Belge qui va créer au départ la Commission des syndicats, qui va devenir la Fédération des travailleurs de Belgique. Et ce modèle-là, c'est celui qu'on retrouve dans toute l'Europe centrale, en Autriche, en Hongrie, et puis dans les pays nordiques plus tard, hein, au tournant du siècle. Ce sont les grands partis du travail ou les partis sociaux-démocrates qui ont constitué les syndicats parce que le parti est premier dans la constitution, dans le mouvement ouvrier, disons. Les théoriciens de la social-démocratie allemande ont toujours dit que le mouvement ouvrier avançait sur deux jambes, le parti, le syndicat, mais que le parti était premier. Le parti prête sa force au syndicat. Le parti, c'est lui qui est le garant de la doctrine, c'est lui qui est le garant du programme, des alliances, de la lutte politique. Le syndicat, c'est ce que disait Kautsky, l'école maternelle de la lutte des classes. Mais la grande école, c'est le parti. C'est d'ailleurs un mode de régulation qu'on va retrouver dans le courant communiste, une fois après 1917-1920. Lénine va un peu radicaliser ce modèle en parlant de courroie de transmission des syndicats par rapport au parti communiste, mais il ne fait que radicaliser le modèle qui est le modèle de la social-démocratie. Alors, il faut bien comprendre pourquoi en France, on n'a jamais eu ce modèle. On n'a jamais eu ce modèle parce que lorsque le syndicat commence ses premiers pas, on n'a pas de parti socialiste. Ou plus exactement, on en a plusieurs. On en a même beaucoup. Alors là, je vais rappeler rapidement... Bon, j'avais prévu un PowerPoint qui l'illustrait, mais tant pis, je le mettrai sur le site, ceux qui veulent regarder. Disons que la constitution du mouvement socialiste en France est très heurtée. Dans un premier temps, ça part du congrès ouvrier de 1879, qui d'ailleurs, les congrès ouvriers, c'est une tradition qui a commencé en 1876, c'est Barberet, un gambettiste, qui a eu cette idée le premier, mais lui, il avait son projet, il voulait légaliser les syndicats pour les intégrer dans la République et dans la société, pour leur confier des tâches, l'indemnisation du chômage, l'éducation des ouvriers, donc il œuvrait aux côtés de Gambetta pour organiser cette légalisation des ouvriers. Donc le premier congrès ouvrier est un congrès très, très réformiste, le second aussi, il a lieu à Lyon. Le troisième, le congrès de Marseille, il est fondateur dans le mouvement ouvrier français parce qu'il est en 1879, c'est celui où les collectivistes prennent la majorité. Alors les collectivistes, c'est ceux qui sont partisans de la socialisation des grands moyens de production et d'échange, en gros des marxistes, pas seulement puisque la partie du mouvement ouvrier qui se reconnaît dans Bakounine accepte aussi en partie l'analyse de Marx sur le capitalisme et donc... C'est un courant plus large que les marxistes, surtout qu'en France, en 1879, le marxisme n'a pas pénétré encore très loin. Même Jules Guesde, qui, lui, conduit cette bataille et la gagne au congrès de 1979, à cette époque-là, il vient de l'anarchisme. Il n'est pas encore le correspondant de Marx, il le devient l'année suivante, d'ailleurs. Et donc, le congrès de Marseille va donner une idée, notamment à Jules Guesde, de créer une première fédération du Parti des ouvriers socialistes de France, qui se constitue en 1879. C'est pas beaucoup de monde, hein. Il faut faire attention quand on évoque ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Parti social-démocrate d'Allemagne à la même époque, hein. C'est un petit rassemblement. Mais Évidemment, dans ce rassemblement, il y a tout de suite des gros désaccords, parce que la tradition ouvrière française, enfin la tradition du mouvement socialiste, elle est plutôt imprégnée des idées proudhoniennes, des utopistes français, des anarchistes, pour aller vite. Et la volonté de Jules Guesde de se caler sur le modèle allemand passe assez mal, et il va y avoir tout de suite une scission en 1881 qui va produire deux organisations. La première, c'est le Parti ouvrier français, 1881. C'est de là qu'on date l'origine, en fait, du Parti socialiste en France. Et de l'autre côté, une Fédération nationale des travailleurs socialistes de France, dirigée par Paul Brousse. Alors Paul Brousse, c'est un penseur original. Il était défenseur, lui, d'un socialisme municipal. Il pensait que le pouvoir se gagnait par en bas, par opposition à Guesde, qui au contraire faisait, dans la logique marxiste, de la prise du pouvoir d'État l'affaire cardinale. Hein, c'est à partir de la conquête de l'État que la transformation sociale pouvait s'opérer, là où Brousse est lui tenant d'un socialisme par en bas, d'un réformisme municipal. Il insiste beaucoup sur la notion de service public, qui pour lui est un élément de socialisme à l'intérieur du capitalisme, et qu'en développant les services publics, on peut déstabiliser et modifier les équilibres internes au système capitaliste. Et donc c'est évidemment une approche tout à fait différente, et les broussistes, comme on va les appeler, et les guédistes vont avoir quelques mal à cohabiter ensemble, et après 1881, ils sont concurrents. Mais à l'intérieur du parti broussiste, il va y avoir, là, comme cette tendance un peu broussiste est assez modérée finalement, enfin on peut en avoir une traduction très modérée, à l'intérieur de ce courant-là, il va à nouveau se fragmenter, et on va avoir une scission en 1890, une nouvelle, autour d'un ouvrier qui s'appelle Jean Alman. Ce courant, bon, Alman va faire scission, c'est l'Union fédérative du centre, hein, une partie donc de la fédération, va faire scission et créer le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. C'est un parti très important, lui aussi, dans l'histoire du socialisme français, mais aussi pour la naissance des syndicats, parce que Alman est un type très radical. C'est un révolutionnaire. Il est anti-guédiste parce qu'il reproche à Guesde son caractère autoritaire et centralisateur. Il est, lui, partisan de l'émancipation ouvrière dans la tradition de l'AIT, disons, hein, c'est-à-dire l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et ils doivent d'abord compter sur leur force plutôt que sur celle de l'État, hein, fut-il occupé par des socialistes. Donc il insiste beaucoup sur la lutte ouvrière, mais il est beaucoup plus radical que Brousse, hein, puisqu'il prône l'action de classe, la révolution, la grève générale. Il fait partie des grèves généralistes, et en cela il s'oppose à Jules Guesde, qui ne croit pas aux vertus de la grève générale. Et c'est un parti qui a intéressé les intellectuels de l'époque, puisque Lucien Aire, qui sera plus tard un compagnon de Jaurès, qui est bibliothécaire de l'École normale supérieure, va être adhérent du POSR, de même Charles Andler, qui est un professeur de la Sorbonne. C'est un parti étrange, parce qu'il est à la fois radical dans son langage, il insistera beaucoup sur l'action autonome des ouvriers, sur l'autonomie de la classe ouvrière, et il va en même temps drainer un certain nombre d'intellectuels de son temps. C'est d'abord un parti d'ouvriers, hein, malgré tout, et il va jouer un grand rôle dans la construction du syndicalisme, mais avec cette idée d'une distanciation radicale entre l'action corporative, l'action de classe, l'action dans le monde ouvrier, et l'action politique dont il va privilégier, disons, une certaine coupure entre les deux niveaux. Alors, il y a un troisième courant, donc vous voyez que là on arrive à trois, le parti ouvrier de Guesde, les alémanistes, donc un courant radical aussi, mais plutôt dans la tradition, disons, du socialisme anti-autoritaire français, et puis les broussistes qui sont assez réformistes, disons, si on veut donner cette étiquette. Il y a un autre courant qui, lui, est hérité du blanquisme. Vous savez, Blanqui, l'enfermé, celui qui a passé 50 ans de sa vie en prison, parce que dès qu'il en était sorti, il fomentait un nouveau coup d'État. Donc évidemment, il avait tôt fait de s'y retrouver. Mais il est l'initiateur d'une tradition, hein, d'une tradition qui est celle du coup d'État révolutionnaire, d'ailleurs qui va inspirer Lénine, hein, cette idée qu'un petit groupe bien décidé, placé à un bon moment et en résonance avec des aspirations plus larges, peut prendre le pouvoir et modifier le cours de l'histoire. C'est les blanquistes qui ont créé, alors ils ne sont pas très très nombreux, et en plus ils sont relativement clandestins, donc ils ont créé, à la fin des années 1870, un comité central révolutionnaire, un CRC, Comité Révolutionnaire Central. Et, Blanqui, lui, meurt sur ses entrefaites, mais la tradition va être reprise par quelqu'un qui joue un grand rôle après, qui est Édouard Vaillant. Vaillant, donc, il va transformer d'ailleurs le CRC en Parti Socialiste Révolutionnaire en 1898, mais c'est une composante intégrante du mouvement socialiste, mais séparée. Donc on en est à 4. Et puis, pour compléter la toile, on s'arrêtera à 5, il y aura aussi les indépendants, vous savez, c'est le parti que Jean Jaurès va rallier, enfin qui est à peine un parti d'ailleurs, c'est une collection d'individus autour de Millerand, de Viviani, des gens qui se sont coupés du Parti radical, qui sont un peu plus à gauche, qui sont des socialistes réformistes, parlementaires, le programme de Saint-Mandé, de Millerand, de 1893, qui est extrêmement réformiste, qui tentera de mettre en œuvre une fois au gouvernement, et c'est lui, ce groupe-là des indépendants, que va rejoindre Jean Jaurès lorsque, lui, élu plutôt centriste, on dirait aujourd'hui, à la Chambre, élu à Carmaux, va se tourner vers le socialisme et rallier le socialisme, il le fera par le Parti des indépendants. Donc, au tournant du siècle, dans les années 1890-1900, on a en France 5 regroupements socialistes. Donc, il va de soi que le mouvement syndical émergent dans cette configuration-là ne peut pas être proche d'un parti, et encore moins de l'ensemble, puisque entre eux, ils sont évidemment essentiellement concurrents et opposés. Et ça va donner, il y a un autre courant qu'il faut évoquer en termes d'idées politiques à cette époque-là, ce sont les anarchistes. Vous savez que c'est un courant qui a existé un petit peu partout en Europe, il y a une tradition en Italie, aux Pays-Bas, en Russie, une tradition anarchiste, qui a tourné un peu à la violence dans les années 1892-94, enfin je dis un peu, mais jeter une bombe au milieu de l'Assemblée nationale, c'est pas un peu de la violence, et puis assassiner Sadi Carnot en 1894, le président de la République, c'était pas non plus les franges de la violence. Donc, mais la partie qui a dérivé vers l'action violente est assez minoritaire dans le courant anarchiste. Il y a une espèce d'international anarchiste, enfin il y a le groupe de Londres, on appelait ça, dans lequel il y avait Louise Michel, qui était resté là-bas, Kropotkin, Malatesta. En 1892, lance un appel aux anarchistes de toute l'Europe en les enjoignant à abandonner la propagande par le fait, hein, c'est-à-dire le vol, enfin, toutes les actions un peu spectaculaires des anarchistes à l'époque, et de rallier les syndicats. Alors c'est ce qu'ils vont faire en France. Ils vont faire ça autour de 1892, et c'est un courant qui va aussi rentrer dans le syndicalisme. Donc vous voyez, et alors, il faut, c'est pour ça que je fais un petit peu cette incidente sur les partis et sur les différents courants du socialisme français, parce que le syndicalisme va émerger au milieu de tout ça. Il va devoir se frayer un chemin, mais qui ne peut pas être autonome de ces forces-là, parce qu'on les trouve sous une forme ou sous une autre, à l'intérieur de la tête des gens qui animent les mouvements syndicaux, et donc on va avoir des compositions, des alliances, des assemblages, on dirait, pour parler d'un bon vin, hein, qui vont se faire dans le syndicalisme entre ces diverses sensibilités. Et notamment le courant alémaniste, qui va jouer un grand rôle. Charnay, qui était le premier historien des alémanistes, il les appelait les alémanarchistes. C'est-à-dire un courant politique socialiste, mais qui, au fond, dans ses conceptions de l'action ouvrière, était très très proche du courant anarchiste. Et quand les anarchistes vont arriver dans le mouvement syndical, c'est là qu'on va les appeler les anarcho-syndicalistes. Ça vient de ça, de ce mouvement-là. Eh bien, ils vont rentrer en opposition avec certains courants politiques socialistes, mais en symbiose avec d'autres, et notamment avec les alémanistes. Alors, je ferme un peu cette parenthèse, on va retrouver tout ça dans la suite de l'histoire, mais si on prend nos fédérations là, qui se sont constituées entre 1870 et 1884, eh bien, chacune d'elles se dote un peu de son idéologie propre. Il y a des fédérations qui vont être plutôt guédistes, il y a des fédérations qui vont être plutôt à dominante alémaniste, et puis il y a aussi, il faut le dire, dès le départ, des fédérations qui sont réformistes, qui ne sont pas très liés, voire pas du tout au courant socialiste. C'est le cas de la Fédération du Livre, par exemple, qui est dirigée par un grand personnage qui s'appelle Auguste Kuyper, qui a quelques noms de rue ici ou là, une à Paris, je crois, dans le 13e. Kuyper est un positiviste. Hein. Il est lié d'ailleurs aux Unions britanniques, mais c'est pas du tout un socialiste. Et il y a quelques fédérations comme ça. Guérard, qui est le dirigeant de la Fédération des chemins de fer, a été un anarcho-syndicaliste, il a tourné au réformisme, c'est un ami de Briand en plus. Bon. Bref, on a de tout. Il ne faut pas voir la CGT de cette époque comme dirigée par une orientation unique. On a déjà, dès le départ, une grande diversité. En 1884, on a déjà tous les ferments hein, de ce que va devenir plus tard le syndicalisme. Mais ça va se faire de manière évidemment pas linéaire, ça serait trop simple. En 1886, donc 2 ans après la loi, va se mettre en place une fédération nationale des syndicats, la FNS. Alors, elle est improprement appelée, d'ailleurs, Fédération nationale des syndicats, parce qu'en fait, c'est une fédération de fédérations. Elle va fédérer les fédérations qui existent, bon, donc le livre, les chemins de fer, les passementiers, les chapeliers, que sais-je encore, il y en a une quinzaine, je crois, dans ce premier regroupement, des fédérations. Elles vont prendre aussi des syndicats. J'ai dit tout à l'heure, les syndicats, c'est local, hein. Les fédérations, c'est central, donc certains syndicats vont s'y raccrocher. D'autres vont rester à l'extérieur. Hein. La FNS ne va pas regrouper tout le monde. Hein. Il y a, par exemple, les mineurs vont rallier le syndicat plus tard. Et pendant ce temps-là, ils sont isolés. Donc, 1886. Hein. Les guédistes sont très actifs dans la création de la FNS. Bon, c'est peut-être leur tempérament centralisateur. Le fait qu'ils sont assez présents dans un certain nombre de fédérations à cette époque-là, va stimuler la création de cette Fédération nationale des syndicats, qu'on pourrait presque appeler déjà une confédération, en ceci qu'elle regroupe différentes fédérations. Ça aurait dû être l'intitulé exact, mais on ne refait pas l'histoire, on va réserver le terme confédération à plus tard. Ça, c'est le premier vecteur, disons, de production du syndicalisme. Donc l'idée, c'est de fédérer des ensembles syndicaux, des unions de syndicats, qui sont organisées à partir du métier. Donc ce sont des fédérations professionnelles, certaines à base d'industrie. Déjà dans le livre, par exemple, on a tout le monde. Hein. Il y a les typographes, les correcteurs, enfin toutes les professions qui tournent autour du livre sont regroupées déjà dans la fédération du livre. Dans les chemins de fer aussi, hein, ceux qui posent les voies et ceux qui sont dans les ateliers de réparation sont dans la même fédération. Pas les conducteurs de locomotives. Hein. Eux, ils sont à part. Ils ont toujours été à part, ils le sont toujours d'ailleurs. Hein, eux, ils rentraient en gare avec le chapeau claque dans leur locomotive, il n'était pas question qu'ils se syndiquent avec les autres, quand même. La FNS, la Fédération des syndicats, représente un peu tout ça. Donc au début, elle est contrôlée par les guédistes, je l'ai dit. Progressivement, le contrôle que vont effectuer les guédistes va être minoré, au point d'être mis en minorité d'ailleurs en 1893-14, et notamment avec l'émergence des alémanistes, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, en 1890, qui vont un peu bouter les guédistes en dehors, et c'est certainement les alémanistes qui vont un peu prendre la position dominante à l'intérieur de la fédération, avec les blanquistes aussi. C'est vraiment ces deux courants-là qui vont être les plus importants dans le mouvement syndical. Mais pendant cette période où on va constituer cette fédération nationale des syndicats, il y a un autre mode d'organisation qui se met en place, qui sont les bourses du travail. Ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi les bourses? D'ailleurs, c'est un drôle de nom, hein, bourses du travail. Ça émerge après la loi municipale de 1885, qui va autoriser les communes à mettre à la disposition des unions de syndicats, des syndicats créés, légalisés l'année précédente, de mettre à disposition des locaux, une aide. Il y a un certain nombre, évidemment, c'est essentiellement les municipalités socialistes, hein, qui vont aider à l'installation des bourses du travail. Mais la première bourse qui a été créée, elle n'est pas du tout créée sur cette base-là. Elle a été créée en 1885 à Paris. Et elle a été créée par des libéraux. C'est pour ça qu'elle s'appelle la bourse. Parce que l'idée qu'avaient ces gens-là, c'était de dire, après tout, dans l'entreprise capitaliste, il y a deux facteurs de production, le capital et le travail. Pour le capital, il y a une bourse. C'est-à-dire qu'il y a des apporteurs de capitaux. Et il y a des gens qui ont besoin de capitaux. Et ils vont à la bourse avec les actions, tout ça. Bon, voilà. La bourse des valeurs, c'est le lieu où les demandeurs de capitaux vont rencontrer les offreurs de capitaux. Eh bien, on va faire la même chose avec le deuxième facteur de production, le travail. On va faire des bourses où ceux qui cherchent du travail viendront et rencontreront ceux qui sont demandeurs de travail, les employeurs. L'idée est simple. Elle ne va pas marcher dans ces termes-là parce qu'à l'époque, les employeurs ont... alors, disons, dans leur proximité, ce qu'on appelle des officines privées de placement, les ancêtres de la NPE, donc, mais ce sont des officines privées où les employeurs vont chercher là leurs ouvriers, parce qu'ils sont triés, quoi. Hein. On évite les dangereux, les excités, les feignants, etc. Enfin, tout un discours là-dessus, à cette époque-là. Donc, ils ne vont pas venir à la Bourse du Travail. Et ils y viendront d'autant moins, d'ailleurs, que, par contre, les ouvriers vont y venir, et très tôt, les syndicalistes, et notamment les anarchistes. Quand les anarchistes plongent dans le mouvement ouvrier, c'est dans les bourses du travail. Et à partir de 1890-92, ils vont commencer à s'impliquer dans le fonctionnement des bourses du travail. Alors éclosent un certain nombre de bourses, une quinzaine, disons, à cette époque-là, Et c'est un modèle tout à fait intéressant parce qu'ils sont porteurs de types de solidarité assez différentes de l'organisation fédératrice, de la fédération donc. Hein. Ils n'ont pas, eux, une solidarité qui est d'ordre professionnel, puisqu'ils regroupent des ouvriers qui font des métiers différents. C'est plutôt une solidarité de proximité géographique, ce qu'on pourrait même appeler une proximité de classe. C'est à partir de du partage d'une commune situation d'ouvriers qu'ils se regroupent, hein, sur une base locale, et donc avec des objectifs qui, d'une certaine manière, sont plus politiques, enfin résonnent, hein, en termes de conscience de classe, de conscience de groupe ouvrière, une conscience autonome, disons. Et autour de la bourse, les anarchistes vont développer un certain nombre de fonctions de service. Il y a une bibliothèque, on peut même y apprendre à lire, il y a un musée social, on y conserve un certain nombre d'outils. Et donc, un service local, plus tard d'ailleurs, Peloutier y ajoutera une fonction de service, un pécule, un sou du soldat, quand les ouvriers partiront au service militaire, on va les doter d'un peu d'argent symbolique, et surtout, lorsque les travailleurs, les compagnons qui passent, ils font une halte à la Bourse du Travail. En général, c'est des lieux d'accueil. Mais en même temps, autour de la Bourse du Travail, les anarcho-syndicalistes vont développer toute une logique d'émancipation sociale, puisque pour eux, la Bourse, lieu de solidarité élémentaire des ouvriers, va être au fond la société à venir en réduction. Et quand ils vont proposer un projet de société, ils vont le faire à travers l'idée d'extension de la Bourse du Travail à l'ensemble de la société. Donc c'est un mouvement qui est tout à fait important. Un des grands théoriciens des Bourses du Travail, c'est Fernand Peloutier, qui est un grand personnage de l'anarcho-syndicalisme. Bon, il meurt en 1901, donc il va peser pas beaucoup dans la suite de l'histoire, mais il laissera une trace durable, hein, dans cette tradition syndicale. Alors, on voit bien qu'on a là, en présence, dès ces années-là, alors, j'oublie quand même, important, les Bourses du Travail vont se regrouper aussi au niveau national. Elles vont se fédérer dans une Fédération nationale des Bourses du Travail qui se met en place en 1892. Alors, elles se fédèrent essentiellement pour faire pièce à la Fédération nationale des syndicats. Alors, on est du coup dans un dispositif qui est un peu particulier, parce que ils sont à la fois concurrents et complémentaires. Complémentaires pourquoi ? Parce qu'au fond, un syndicat, je vous ai dit, c'est l'unité de base. A priori, rien ne l'empêche d'être dans les deux structures. Normalement, il peut relever d'une fédération nationale, par la profession de ceux qui composent le syndicat, puisque le syndicat est à base professionnelle, et puis il peut adhérer à sa bourse du travail en tant qu'il est géographiquement situé. Donc on a là deux formes qui sont assez complémentaires. Et complémentaires aussi parce que la fédération, elle, son identité, l'identité est une identité d'abord corporative, une identité de profession, de métier. Alors que la bourse du travail, elle développe plutôt des identités interprofessionnelles. Donc on a au fond des organismes qui normalement pourraient recevoir l'adhésion du même syndicat, ils pourraient être dans les deux, l'un ayant une vocation à organiser sur le plan professionnel et national, et l'autre à organiser sur le plan interprofessionnel et local. Alors c'est ça qu'on peut appeler une situation de complémentarité. Mais en même temps, elles sont concurrentes, parce que dans la vision qu'elles développent, elles n'ont pas exactement la même approche. Alors, c'est par là que se traduisent aussi les influences politiques, parce que dans la Fédération nationale des syndicats, dans les fédérations professionnelles, il y a une conception plutôt corporative de la défense, de la représentation des salariés. Alors que les anarcho-syndicalistes, avec leur vision sociétale, disons, des choses, sont plus à l'aise à l'intérieur des bourses du travail, et en tout cas, s'ils constituent la fédération, c'est pour faire pièce au pouvoir que pourraient exercer les fédérations nationales sur le mouvement corporatif naissant, sur ce syndicalisme encore embryonnaire. Alors cela dit, il y a 18-20 bourses du travail, et il y a 15 fédérations, donc on est encore dans des petits ensembles, hein. On n'est pas dans les grandes usines syndicales, hein. Tout ça est évidemment de peu de force, donc l'idée de rassembler tout ça va venir assez vite. Et du coup, en 1895, on va ramener tout ça sous un même chapeau, qui va s'appeler la Confédération Générale du Travail, la CGT. C'est un drôle de nom, d'ailleurs, la CGT, si on s'y arrête. Confédération Générale, c'est un pléonasme. Confédération Générale, ben pourquoi ? Mais parce que, justement, il y a un redoublement de la notion de rassemblement. la Confédération générale, elle réunit à la fois toutes les fédérations, et en ceci, elle est une confédération, mais elle les rassemble avec les bourses du travail. Et donc, on redouble la notion de rassemblement. C'est une confédération générale. Et c'est une confédération du travail, et pas des travailleurs. Si vous prenez les centrales syndicales allemandes, néerlandaises ou même italiennes, elles s'appellent Confédération des travailleurs. En France, la CGT s'appelle Confédération générale du travail, et pourquoi pas des travailleurs? Parce qu'à travers l'édifice constitué par les bourses du travail et les fédérations, le travailleur, il est deux fois dans la Confédération. Il l'est en tant qu'il appartient à une fédération professionnelle, il l'est en tant qu'il appartient à une bourse du travail. Le travailleur est représenté deux fois. Le socle identitaire de la CGT, c'est le monde du travail. En tout cas, c'est son aspiration, parce qu'en 1895, elle est quand même assez loin du compte. C'est un petit machin. Il y a 75 personnes au congrès fondateur, il y a 7 femmes, dont 5, je crois, qui venaient des porcelainières de Limoges, parce que le congrès a lieu à Limoges. Elles viennent expliquer à ces messieurs leur grève, puisqu'elles sont en grève à la même époque. Donc c'est un congrès masculin des professions qui tiennent le haut du pavé à l'époque, et en tout cas, ça fait même pas une ligne dans la presse nationale. Donc c'est vraiment une opération quasi clandestine. Alors, maintenant, voilà, on est dans l'ère du syndicalisme. Le syndicalisme est né dans sa forme. À l'époque, on ne lui donne pas forcément un grand avenir, puisqu'elle est petite. Elle ne regroupe pas tout le monde. Il y a à peu près 300 000 membres à l'époque, pour 420 000 syndicalistes, syndiqués recensés à l'époque. Alors, les autres, où est-ce qu'ils sont, les autres? On y reviendra éventuellement, mais il y en a qui sont dans la nature, il y a les mineurs qui ne sont toujours pas là, qui vont adhérer plus tard. Il y a certains métallurgistes aussi qui sont à l'extérieur. Il y a aussi des syndicats chrétiens en petit nombre, j'en parlerai éventuellement si j'ai le temps, mais c'est pas très très significatif. Et puis plus tard, hors la CGT, il y aura ce qu'on appelait le syndicalisme jaune. On y reviendra si on a deux minutes. C'est une particularité. Il s'appelait comme ça. Vous savez, les jaunes, c'est les briseurs de grève. Donc le patronat, dans cette époque, pour faire pièce à la CGT, avait créé et même suscité une fédération nationale des jaunes de France, qui est née en 1902. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? On fait ce qu'on peut. Mais au fond, ils avaient voulu utiliser la couleur comme les rouges l'avaient fait, puisque les rouges, c'était le sang, c'était les révolutionnaires, c'était ceux qui versaient le sang. Mais ils ont pris le stigmate, ils l'ont retourné, ils en ont fait une valeur. Le drapeau de la révolution, c'est un drapeau rouge. C'est le drapeau du sang, mais c'est plus le sang, c'est la révolution, c'est l'émancipation. Donc eux, ça a marché. Alors les jaunes, on les taxait de jaunes, ils ont voulu eux aussi retourner la couleur, mais ça n'a pas marché. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'ils ont disparu, il y a bien d'autres raisons. Mais enfin, bon, en tout cas, la CGT, à l'époque, ne rassemble pas tous les syndiqués, et même si on ajoute tous les syndiqués, ça ne fait pas encore grand nombre. Alors, on peut distinguer après deux périodes, jusqu'en 1914, l'une qui va jusqu'en 1906, et puis après 1906-1914. Alors, la première, vous savez, 1895-1906, c'est la belle époque, c'est ce qu'on dit après, en tout cas, c'est une période qui montre l'apogée de ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire. Alors pourquoi on l'appelle syndicalisme révolutionnaire cette période-là? Parce que justement, dans cette CGT, dans ces organes qui se mettent en place, on va voir qu'il y a beaucoup de mouvements dans les fédérations, on va les regrouper, on va changer de référence, etc. Eh bien, il y a ces composés idéologiques qui vont se former, et notamment entre les anarchistes, les anarcho-syndicalistes, les alémanistes, les blanquistes, vont constituer un peu cette identité qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire. C'est pas uniquement des anarchistes, mais c'est ce composé politique assez propre de cette époque, assez radical, je veux dire en deux mots quelles sont leur idéologie au fond de référence, mais en tout cas, dans cette période-là, c'est la période vraiment, j'ose pas dire dorée, mais c'est celle où le syndicalisme révolutionnaire a le haut du pavé, attention, tout en rappelant quand même cette diversité interne. C'est qu'il y a aussi déjà des grandes fédérations qui sont réformistes, et il y a aussi des gens qui restent assez proches des guédistes, donc proches qui, eux, souhaiteraient une liaison plus forte avec les socialistes. On va y revenir parce que à la fin de cette période, en 1906, le débat va être posé des rapports avec le courant socialiste, parce que le courant que j'évoquais tout à l'heure, cette dissémination des partis socialistes, qui est le propre de la fin du 19e siècle, quand on rentre dans le 20e, on va au contraire être dans une logique de regroupement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier regroupement, et surtout en 1905, la constitution du Parti Socialiste Unifié, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, la SFIO, section française de l'Internationale Ouvrière. Et à partir de ce moment-là, le parti sera non plus cette collection d'organisations disparates, mais le grand parti de Jaurès, Vaillant, Guède et quelques autres. Et à partir de là, la question de son rapport au mouvement syndical va se poser dans de tout autre terme, et on va voir que c'est ce qui va déboucher en 1906 dans la Charte d'Amiens. Alors, se rappeler quand même en deux mots, je l'ai évoqué la dernière fois, mais tout de même, les conditions dans lesquelles le syndicalisme émerge. Une France rurale, une classe ouvrière minoritaire, un patronat assez peu porté au compromis, ne serait-ce que parce que le patronat français à cette époque est très marqué par le patronat familial, hein, le capitalisme familial à la française, et non pas les grandes sociétés par action qui existent en Angleterre ou en Allemagne. C'est un patronat plutôt de petites fabriques ou même avec un poids. Alors il y a quelques grandes usines, Schneider, etc., les mines d'Anzin, tout ça. Il y a quelques grands fleurons industriels, Schlumberger, mais c'est toujours autour des familles en tout cas que ça tourne. Il y a un paternalisme patronal assez actif, et évidemment c'est pas facile pour le syndicalisme un ouvrier de s'imposer dans ce contexte-là. L'organisation des grèves est difficile, elles sont souvent réprimées. Hein, il y a Fourmi, 1891, c'est pas exactement une grève d'usine, vous savez, c'est le 1er mai, la célébration du 1er mai qui se termine par une fusillade, 14 morts, mais c'est une tradition, c'est-à-dire que dans beaucoup de conflits sociaux, on le verra par exemple dans les grèves de Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges, où on envoie la troupe hein, pour régler un conflit. En plus, à cette époque-là, la CGT n'est pas très nombreuse. Au gouvernement, il y a Briand, Clémenceau. Ces gens-là connaissent bien les syndicalistes révolutionnaires, parce qu'on l'oublie souvent, mais Clémenceau et Briand ont commencé leur carrière comme grèves généralistes. C'était des propagandistes de la grève générale. Ils ont gardé des amitiés dans ce monde-là. Ils ont gardé aussi des contacts dont ils se servent comme taupe à l'intérieur de la CGT. Donc dans beaucoup de conflits, on se rend compte, après coup, il y a des enquêtes, etc. Et on a retrouvé ça dans les archives de la police, d'ailleurs. Il y a des provocateurs lâchés par le ministère de l'Intérieur, etc. Donc c'est une période extrêmement difficile pour la CGT. Donc c'est quand même un contexte qu'il faut prendre en compte. Mais c'est d'abord un contexte de mise en place de l'organisation. On va la rationaliser, à la fois sur le plan politique, sur le plan idéologique, mais aussi, évidemment, sur sa propre organisation, puisque je disais qu'au congrès de Limoges, tout ça était assez disparate. Donc on va étendre le réseau des bourses, on va rattacher les syndicats isolés à des fédérations, en créer lorsque la fédération manque, commencer à en regrouper certaines. Il y a une grande instabilité à l'intérieur de la confédération, les secrétaires généraux démissionnent, je ne sais plus combien ils en ont passé, 7 ou 8, je crois, en 4 ou 5 ans. L'organisation va commencer à se stabiliser en 1901 avec l'élection de Victor Griffuel à la tête de la Confédération. Il va y rester jusqu'en 1909. C'est une grande gueule, un syndicaliste révolutionnaire. Il vient du blanquisme, lui. Et c'est une forte personnalité qui va un petit peu stabiliser la maison. Donc en 1900, la CGT a 15 fédérations. En 1905, elle en a 63, 76 en 1910. Donc vous voyez que il y a un processus d'organisation. Alors ces organisations, il y en a quelques-unes d'industrie, je les ai évoquées, et toutes celles qui sont constituées là sont des fédérations de métiers. Mais dès la fin du siècle, en 1897, on commence à s'interroger justement sur la question de la coordination des métiers. Je prends un exemple dans le bâtiment. Sur un chantier d'une maison, vous aviez le syndicat des maçons, des charpentiers, des plâtriers, des peintres, j'en passe. Et ils avaient le même patron, ils étaient sur le même lieu de travail. Donc la question de ce mode d'organisation se pose, et surtout, elle devient prégnante avec le développement du machinisme. Je cite Griffuel, qui en parle au congrès de 1900, il dit « Jusqu'à l'avènement du machinisme, le métier a eu une définition particulière. Aujourd'hui, par le progrès du machinisme, le mot métier dans sa définition même s'est transformé. Le machinisme, en créant la division du travail, a fait que le produit qui autrefois a été créé par un seul ouvrier est aujourd'hui le résultat du travail de plusieurs. » Donc on voit bien que le monde du travail devient plus coopératif, qu'on n'est plus simplement l'ouvrier sur son coin qui fait le produit de A à Z, mais que la division du travail a commencé à produire des assemblages, enfin ce que Durkheim appelait la solidarité organique. Alors, du coup, la Confédération va plutôt agir à cette époque-là dans le sens du regroupement de ceux qui soit opèrent sur la même matière, et c'est la matière produite qui va être le lieu de rassemblement, le métal. Tous les métiers qui travaillent le métal vont tendanciellement se réunir dans la même organisation. Les ajusteurs, les mécaniciens, bon, qui étaient dans des syndicats de métiers, hein, vont se regrouper vers l'industrie, les cuirs épaules, les sabotiers qui travaillent le cuir, mais pas comme les... Bon, tout ça va se mettre un peu dans les mêmes lieux. Ou alors on va regrouper ceux dont le travail a une affectation commune. Le service, par exemple, les garçons coiffeurs, les apprentis boulangers, etc., qui avaient chacun leur syndicat, on va les regrouper dans des syndicats, dans une fédération du commerce. Donc la première qui se transforme, d'ailleurs, c'est celle du bâtiment, parce que là, c'était vraiment tellement manifeste que ça posait pas de problème. Dans la métallurgie, ça a été beaucoup plus conflictuel, parce que lorsqu'on a été annoncé aux mécaniciens qu'ils allaient être justement dans la même fédération que les ajusteurs, ils ont un peu tordu le nez, parce que pour eux, c'était mélanger les torchons et les serviettes. Voilà, un mécanicien dans le même syndicat qu'un ajusteur, non. Donc, parce qu'il y avait dans le monde ouvrier, il y a toujours, hein, des hiérarchies implicites ou explicites qui étaient extrêmement fortes, des fiertés relatives, ce que Diribarne a appelé la logique de l'honneur, hein, dans les professions, qui a toujours existé. Et lorsqu'il a fallu créer ces fédérations où on mélangeait plusieurs métiers, ben, il y a des fois où ça s'est terminé, notamment dans la métallurgie, ça a été 10 ans de crise, hein, de réorganisation. D'abord dans la fédération, puis après, quand il a fallu le faire dans les syndicats, ça a été quelque chose d'assez compliqué. J'insiste là-dessus, c'est un travail qui a été coûteux, douloureux pour la CGT dans cette période-là, mais d'une certaine manière, elle a quand même eu une réactivité très importante, parce qu'elle a pris en compte très vite le changement dans l'activité de travail, hein, c'est justement ce côté plus coopératif du travail. C'était une anticipation sur ce que seront plus tard les branches industrielles, à travers lesquelles d'ailleurs on organisera des conventions collectives, ça c'est pour beaucoup plus tard. Mais en tout cas, il y a là une anticipation dans le syndicalisme français qui n'a pas été faite partout. Le syndicalisme britannique, par exemple, est resté ancré sur les métiers, le syndicalisme américain aussi, très longtemps. Les Allemands, ils ont fait des fédérations d'industrie assez tôt, mais les Américains, l'AFL américaine est toujours resté un syndicalisme de métier. Hein. Elle l'est encore d'ailleurs. On rencontre encore les charpentiers de New York, hein, quand on y va. Bon, alors, ils ne syndiquent pas que les charpentiers de New York, mais ça reste quand même la tradition, l'AFL reste dans la tradition de métier. Les Teamsters, par exemple, c'est le métier de camionneur, même si les Teamsters syndiquent bien au-delà de cette profession. Donc là, on a une transformation assez profonde, et avec l'industrie qui devient le cœur de la référence par rapport au métier. Sur le plan idéologique, donc, je disais, c'est l'apogée du syndicalisme révolutionnaire. Donc ce mélange d'anarcho-syndicalisme, d'alémanisme et de blanquisme. Alors la thèse, il prône la grève générale, l'action directe, c'est-à-dire, c'est toujours l'émancipation des travailleurs, sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, donc l'action ouvrière est première. Il prône la grève générale, ils sont pas, alors là c'est un peu une rupture avec le blanquisme, eux ils sont pas sur l'idée du coup d'État, etc. Ils pensent que la société, de toute façon, est très encadrée par l'armée, la police, l'appareil répressif d'État, on dira plus tard, hein. Et que les ouvriers qui ne savent pas manier les armes n'ont aucune chance, donc dans la logique du coup d'État. Par contre, dans la mesure où le travail est le fondement de la société capitaliste, la meilleure façon de mettre à bas le capitalisme, c'est d'arrêter le travail. Une fois que tout ça sera effondré, il n'y a plus qu'à reconstruire derrière. Enfin, il n'y a plus qu'à. On sait que ça va être compliqué. Hein. Mais en tout cas, la mécanique, elle est là. C'est la grève générale qui est le levier de la transformation sociale. Et c'est quand même ça la grande idée centrale du syndicalisme révolutionnaire. Alors, ils ont un répertoire qui ne s'embarrasse pas d'un amour immodéré pour la démocratie. C'est plutôt un élitisme ouvrier assez marqué. Ils ne veulent pas s'embarrasser de la masse moutonnière de ceux qui suivent. Les adhérents passifs, ça ne les intéresse pas. Hein. Eux, ils exaltent le volontarisme des travailleurs. Ils exaltent la fierté. Au fond, ils sont représentatifs de cette fierté des ouvriers de métier. D'ailleurs, il y a un historien américain qui a appelé ça le socialisme des ouvriers de métier, hein, le syndicalisme révolutionnaire. L'histoire des bourses du travail, là, qui est le livre posthume de Peloutier, montre bien ça. Il exalte, lui, l'œuvre éducative du syndicalisme. Et par exemple, Peloutier dit l'ouvrier a deux ennemis, son patron et sa propre ignorance. Et il enjoint les ouvriers à se former, à apprendre à lire, à se cultiver, à développer les qualités intellectuelles, à sortir du statut d'abruti qu'on leur renvoie en permanence. Il combat l'alcoolisme dans le monde ouvrier, le chômage. Hein, les anarcho-syndicalistes, les syndicalistes révolutionnaires ont toujours refusé le principe même des allocations de chômage. Ça met les ouvriers dans la dépendance et donc dans la déchéance. Ils ont essayé d'organiser à travers les bourses un réseau dans lequel faire passer. Enfin, le réseau, c'est un terme moderne. À l'époque, on ne parle pas comme ça, mais il faut que d'une bourse du travail, on sache où est le travail. Parce que ceux qui en manquent, il n'est pas question qu'ils s'installent dans l'oisiveté. Les bourses du travail leur disent, là-bas, il y a du travail. Et on te donne 3 sous pour y aller. Mais tu ne t'installes pas ici dans le chômage. Hein, parce que le chômage, ça veut dire l'alcool, ça veut dire l'image que le bourgeois projette de l'ouvrier. Donc il y a vraiment... C'est toute une rhétorique, hein, de la fierté de la condition ouvrière. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, ils sont assez en résonance quand même avec les ouvriers de leur époque. Mais en même temps, ils sont le reflet Et les bourses du travail reflètent bien ça. Ils sont le reflet d'une certaine marginalité sociale des ouvriers dans la société. Vous savez, Auguste Comte avait dit, en 1850, les ouvriers campent dans la nation. Et il voulait dire qu'en fait, ils n'avaient pas de statut social. Ils étaient là, le lendemain, ils pouvaient être ailleurs. Ils sont sans feu ni lieu, au fond, hein, pour reprendre cette vieille expression. Et au tournant du siècle, on est encore dans cette marginalité sociale. Les lois Millerand n'ont pas... ont réglé quelques problèmes, ont limité un peu les abus, ont fait en sorte que les enfants de moins de 13 ans ne travaillent plus en usine et dans les mines. Bon, tout ça, évidemment, est mieux que rien. Mais enfin, on n'est pas encore dans le statut du salariat qu'on connaîtra plus tard. Donc... il y a une certaine marginalité sociale ce syndicalisme révolutionnaire, alors ça, il y a des travaux d'historiens là-dessus, et notamment de, hein, que vous connaissez sous un autre profil, qui est Jacques Julliard, hein, qui est éditorialiste au Nouvel Observateur, et qui a fait sa thèse, un historien, sur le syndicalisme révolutionnaire, où il montre très bien ça, hein, le type de résonance qu'avaient les syndicalistes révolutionnaires, et pourquoi, à un moment donné, ils cristallisent quand même une pensée qui est importante, même si, encore une fois, elle ne rassemble pas tout les ouvriers, bien sûr, mais même pas tout le mouvement syndical de l'époque. À cette époque, il faut dire que les syndicalistes révolutionnaires, ils sont probablement, peut-être pas encore en 1906, mais à partir de 1909, c'est évident, ils sont minoritaires dans la CGT. Pourquoi ils sont encore aux commandes? Parce qu'ils sont sur le principe un syndicat, une fédération, une voix. C'est-à-dire que la Fédération du Livre, qui a 30 000 adhérents, a exactement le même pouvoir que la Fédération des Ferblantiers, qui sont 1000, hein, ou la Fédération des Dessinateurs, ou la Fédération des Diamanteurs, ils sont 60. Ils ont une voix comme la Fédération du Chemin de Fer, qui a 10 000 adhérents. Donc c'est un principe, ils récusent là. Et ils récusent la proportionnelle, au fond, le poids. Chaque fédération pèserait en fonction de son nombre d'adhérents, qui est aujourd'hui la règle dans le syndicalisme, dont on estime quand même que c'est une règle quelque part démocratique. Eux considèrent que c'est faire la part au gros bataillon, mais que ça n'a rien à voir avec la stratégie qui doit reposer d'abord sur des individus et non pas sur les grandes troupes. Alors, cette période 1900, qui va jusqu'en 1906, elle est marquée aussi par la perspective de la grève générale. À partir de 1904, la Confédération commence à travailler au 1er mai 1906, jour à partir duquel les travailleurs ne travailleront pas plus de 8 heures par jour. C'est la grande référence internationale, la journée de travail de 8 heures. Et donc, le 1er mai 1906, la Confédération lance un mot d'ordre de grève et manifestation. Bon, le 1er mai, à l'époque, n'est pas un jour férié. Vous savez que ça vient beaucoup plus tard. C'est une journée de commémoration internationale des travailleurs. Bon, l'origine est américaine, je n'y reviens pas. Et donc c'est une grève et une manifestation à Paris. Griffuel se retrouve en prison, enfin bon, il y a là encore la troupe qui charge, etc. Tout ça est un petit peu violent, mais c'est aussi la première fois qu'il y a une grève nationale de la CGT qui est visible. La Fédération de l'éclairage a réussi à éteindre les réverbères dans les beaux quartiers de Paris. C'est la première grève des services publics avant la lettre, si vous voulez. Et là, on en parle dans la presse. Là, ça alimente déjà la peur des rouges. Hein. Donc, finalement, bon, ils essaient de tenir la journée de 8 heures le lendemain, sur le lendemain. Il y a encore des secteurs qui vont tenir un peu la grève, mais évidemment, le mouvement va échouer. En même temps, c'est pas un échec complet, parce que la CGT s'est montrée. D'ailleurs, elle va s'indiquer dans la suite. Et elle a conduit une action visible, perçue un peu comme telle, et c'est quelque part un moment fondateur. Mais 1906, c'est aussi important parce que c'est l'année du fameux congrès d'Amiens, qui a laissé dans la mémoire syndicale ce texte qu'on a appelé après la charte d'Amiens, qui est important à divers titres. D'abord, je disais tout à l'heure, le Parti socialiste s'unifie en 1905, et donc les guédistes reviennent à la charge, en disant, mais vous là, tous les syndicalistes révolutionnaires, là, vous nous disiez, oui, avec le Parti socialiste, mais lequel, hein, du temps où il y en avait 5, et puis après il n'y en avait plus que 2, mais enfin ça faisait encore un de trop, maintenant il n'y en a qu'un, alors vous allez nous dire quoi? Alors, donc en gros, ils reviennent au congrès d'Amiens avec la question du rapport, et eux souhaitent un rapport organique à l'allemande avec le Parti socialiste. Et là, il y a une espèce de réflexe de défense de tous les autres, des réformistes les plus timorés, hein, les positivistes du livre, jusqu'aux syndicalistes révolutionnaires, pour s'opposer à cette idée de liaison organique avec le syndicat. Alors la charte d'Amiens, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? C'est un très beau texte, hein, il faudra le mettre sur le site d'ailleurs. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il faudrait l'apprendre par cœur. La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Et puis, sur cette question-là, En ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué de participer, en dehors du groupement corporatif, à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander en réciprocité de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe en dehors. Vous voyez ce souci d'indépendance qui est... Il y a non seulement liberté des syndiqués de faire de la politique, mais c'est en dehors. Dans le syndicat, il y a un principe de neutralisation. Les organisations confédérées, dit la Charte, n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes, ça désigne les anarchistes, qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. Donc, le syndicat s'isole du champ partisan, pas du champ politique. Parce qu'on peut lire de différentes façons, ça a été fait par les historiens, mais ça a été fait aussi à l'époque par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que les positivistes sont d'accord avec ça. Eux, c'est pas pour faire la révolution dans leur coin, c'est parce que ça leur permet de se tenir à distance du mouvement socialiste, une telle conception. Mais les syndicalistes révolutionnaires, pour eux, c'est pas du tout ça qu'ils mettent derrière. C'est cette idée qu'il n'est pas question d'abandonner la fonction de transformation sociale au parti, mais qu'elle fait partie intégrante du travail du syndicat. Et c'est là que la Charte d'Amiens apporte une autre caractéristique qui va imprimer une marque assez durable dans le mouvement syndical français, c'est cette notion de double besogne. Je reprends la Charte ailleurs. Le Congrès précise par les points suivants cette affirmation théorique. Vous voyez qu'à l'époque, le syndicat n'a pas peur de dire qu'il produit une affirmation théorique. Dans l'œuvre, alors ça c'est un beau texte, moi je m'en lasse pas, dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicat poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. Donc ça, vous voyez que les syndicalistes révolutionnaires, ils reconnaissent au syndicalisme une partie qu'aujourd'hui on a coutume d'appeler réformiste, c'est-à-dire cette idée d'un progrès graduel, une conception. Chaque jour, on arrache avec patience les acquis sociaux, etc. Mais le texte poursuit. Cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Alors ça, c'est la lecture de l'époque des syndicalistes révolutionnaires, où on voit ce que j'évoquais tout à l'heure, leur conception de la grève générale, levier de la transformation et extension des sociabilités ouvrières à l'ensemble de la société. Mais voilà, donc la notion de double besogne, elle va imprimer sa marque assez profondément dans le mouvement syndical français, parce qu'à l'époque, la deuxième besogne, là, l'émancipation, bon, c'est la doctrine syndicaliste révolutionnaire, mais plus tard, ça sera autre chose. Ça sera le communisme, ça sera le socialisme, ça sera l'autogestion, ça sera, y compris les idéaux de la démocratie chrétienne, d'ailleurs, sur certains segments du syndicalisme. Mais toujours, on va voir dans le syndicalisme français cette idée que le syndicalisme a ses deux fonctions en parallèle. L'une qui est la défense au jour le jour, mais aussi, quelque part, d'éclairer l'avenir, de préparer à sa façon et dans les termes du moment, l'émancipation intégrale. Ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs lié à la précédente considération de la Charte d'Amiens, c'est-à-dire la distanciation aux politiques, mais qui n'est pas un abandon de la question politique, qui n'est pas un apolitisme, mais qui est de considérer que, à travers l'action syndicale elle-même, il y a un débouché sur le politique, pas la politique des partis, mais sur le politique, sur l'organisation de la société, sur les grands projets émancipateurs, sur ce qu'on peut appeler les téléologies de l'action. Les grands projets de transformation du monde qui animent à des périodes différentes les consciences de manière partagée, mais j'évoquais les grandes références constitutives des idées politiques du cours du XXe siècle qui ont toujours éclairé, en tout cas jusqu'à une période récente, l'action des syndicats. Et donc qui fait partie, c'est aussi une sorte de schème structurant du génotype français, quoi. C'est vraiment instruit dans la culture syndicale française. Alors on aura une exception, évidemment, cette considération qui est la liaison que va établir la CGT avec le Parti communiste à partir des années 1926-27, qui vont être durables jusqu'aux années 90 pratiquement, qui instaure dans le système syndicalo-politique français cette liaison organique entre un parti et un syndicat qui n'est pas dans la tradition de la Charte d'Amiens et qui d'ailleurs va être combattue pour ça. On va montrer du doigt cette liaison, d'ailleurs non avouée du coup, entre le Parti communiste et la CGT, C'est paradoxal si vous regardez ça d'un point de vue européen, parce que c'est la régulation, c'est la relation social-démocrate standard. En Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, les dirigeants du syndicat sont tous membres de la direction du Parti du Travail ou du Parti social-démocrate. Et cette liaison organique existait couramment, je ne parle même pas de l'Angleterre, où ce sont les unions qui ont créé le Parti travailliste. Donc là, un rapport du syndicat au parti encore plus direct, puisque c'est lui qui faisait le programme, les candidats, et les premiers ministres britanniques travaillistes sont tous venus du mouvement syndical, tous sauf le dernier. Tony Blair n'en venait pas, et d'ailleurs le New Labour, c'est précisément, avant d'être un programme centriste, c'est d'abord la rupture de cette liaison avec les syndicats britanniques. Mais donc ce mode de relation entre syndicats et partis, qui est pratiquement la norme pendant toute cette histoire syndicale dans les autres pays européens, en France va devenir une exception, parce que la règle, c'est celle qui est inscrite dans la charte d'Amiens. Alors la règle connaît des accommodements, c'est-à-dire que dans la coulisse, on se voit, on se rencontre, il y a des liens, évidemment. Mais en tout cas, le syndicalisme affirme son autonomie par rapport au mouvement syndical. Donc l'année 1906 est un moment important pour toutes ces raisons. Elle marque un peu la fin d'une époque, parce que on a pu dire que c'était l'apogée du syndicalisme révolutionnaire, et notamment Pierre Monnat, qui en a été un des illustrateurs, des penseurs, des activistes même, a parlé de la crise de langueur qui va s'emparer après 1906 du syndicalisme révolutionnaire. Et on va terminer par cette période, de 1906 à la guerre, où, après 1906, on commence justement à avoir des grandes interrogations stratégiques. Parce que les syndicalistes révolutionnaires sont très hostiles aux lois sociales. Ils considèrent qu'elles démobilisent la combativité ouvrière, puisqu'elles les rend dépendants de mesures étatiques. Et donc, sur le plan idéologique, ces positions commencent à connaître un certain nombre de difficultés vis-à-vis des travailleurs. Parce qu'on ne peut plus, même si les lois, j'ai fait toutes les réserves qui convenaient en disant qu'elles n'allaient pas très loin, etc., il n'empêche qu'elles apportent des changements, elles imposent un certain nombre de choses, et du coup, le syndicalisme révolutionnaire commence à avoir des contradictions, disons, sur cette question. Par exemple, la loi des 11 heures dans les usines en 1900... a été récusé, la loi sur le repos hebdomadaire en 1906, bon, quand même, c'est une loi qui impose le repos hebdomadaire, si possible, dimanche, donc c'est pas assuré, mais tout de même, en 1910, il y a un premier code du travail qui s'installe, et puis la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, la première grande loi, entre guillemets, sur les retraites en France. Alors là-dessus, la CGT a un registre argumentatif différent, c'est-à-dire qu'elle va combattre les retraites ouvrières et paysannes, mais non pas parce que c'est une loi sur les retraites, mais parce qu'ils disent que c'est des retraites pour les morts. Alors le système des ROP, des retraites ouvrières et paysannes, est en effet assez singulier, puisque c'est un système en capitalisation, il n'y avait pas d'obligation d'adhésion, donc seuls les ouvriers qui gagnaient quand même un peu leur vie pouvaient y cotiser, ils capitalisaient toute leur vie, et ils avaient accès à partir de 65 ans à une rente. Le problème, c'est que l'espérance de vie de la population à cette époque-là ne dépasse pas 50 ans. Donc évidemment, l'appellation, la campagne était facile. Et à part Jaurès, qui a soutenu l'Europe, tout en montrant d'ailleurs leurs insuffisances, et en pointant d'ailleurs le fait que ça serait mieux si elles étaient obligatoires et en répartition, et que c'est des débats qui ne sont pas nés d'hier, mais Jaurès dit c'est mieux, c'est un pragmatique Jaurès, donc il supporte l'Europe. Par contre, Jules Guesde, pour une fois, se retrouve dans le même camp que les syndicalistes pour dénoncer cette loi pour les morts. Mais là, on voit que l'argumentation qui est développée est une argumentation sur le contenu et non pas sur le principe même d'une loi. Donc on voit bien que par rapport à ça, et puis les syndicalistes révolutionnaires se divisent. En leur sein, il y a ce que Griffel appelait les braillards. Les braillards, c'est les anarchistes genre Yvetot, la CGT est antimilitariste évidemment, puisque à chaque fois qu'il y a des grèves, il y a l'armée en face. Donc elle est de ce fait antimilitariste, mais progressivement, avec la guerre qui monte, ça devient plus difficile à tenir, l'antimilitarisme. Et du coup, il va y avoir un partage, y compris au sein des syndicats. Non pas sur le fait de savoir si on est antimilitariste ou pas, mais si on doit mettre l'accent sur cette dimension-là de la lutte syndicale. Et on va avoir des fragmentations multiples du courant syndicaliste révolutionnaire et un peu une espèce de panne, si vous voulez. Autant ça a servi de support à un certain dynamisme ouvrier, autant après, on a des doutes et des interrogations sur la pertinence de la stratégie. Et puis d'ailleurs en 1909 se crée une revue, les syndicalistes révolutionnaires vont créer une revue dans laquelle toutes ces interrogations stratégiques vont émerger. C'est la vie ouvrière qui va devenir après le journal de la CGT, qui le reste encore d'ailleurs, mais à cette époque-là, il illustre bien cette crise de langueur dont parle Monad, qui d'ailleurs était un des grands rédacteurs de l'AVO. Alors, les tensions montent aussi sur cette question du suffrage que j'évoquais tout à l'heure, parce que de plus en plus, les grandes fédérations supportent assez mal la domination des syndicalistes révolutionnaires qui sont manifestement de plus en plus minoritaires. Et puis, après 1911-1912, on est sur la logique de la guerre qui vient. Et la perception, qui d'ailleurs est très très lucide dans l'AVO, de la question de la guerre. La vie ouvrière consacre énormément d'articles aux questions internationales et perçoit plutôt que bien d'autres la question du risque de la guerre. Griffuel a démissionné en 1909, et puis après un court intermède, c'est Léon Jouhaud qui devient secrétaire général de la CGT. Léon Jouhaud, qui est d'ailleurs élu comme secrétaire général de transition. Alors, il existe des transitions plus courtes dans le mouvement ouvrier, parce que Jouhaud a été un chef syndical jusqu'aux années 50. Mais alors, Jouhaud, lui, vient du syndicalisme révolutionnaire, mais c'est pas un doctrinaire. Il l'a jamais été, pas plus qu'à cette époque où il est évidemment plus jeune. Par contre, c'est un pragmatique, et il va faire beaucoup pour insister sur les questions d'organisation. Et la CGT va continuer cet effort de rationalisation de ses fédérations, et surtout rationaliser le schéma que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les bourses du travail des fédérations. On va décider, après 1909-1910, de généraliser les bourses du travail, et surtout de les transformer en unions départementales. C'est-à-dire que la bourse se voit dotée de fonctions sur l'ensemble du département, ce que la plupart d'entre elles d'ailleurs faisaient déjà. Elles étaient dans une ville, mais elles s'occupaient évidemment des syndicats du département. Mais c'est quand même significatif que la centrale, la Confédération, choisit un mode d'organisation qui est tout de même ajusté aux frontières administratives de l'État bourgeois que par ailleurs elle combat. Mais elle s'inscrit quand même dans les frontières administratives des départements. Et elle généralise ce modèle, c'est-à-dire que partout il doit y avoir des unions départementales, et du coup le schéma confédéral, la CGT, est l'organe qui chapeaute l'ensemble. Mais l'ensemble, c'est quoi? Vous avez le syndicat à la base, donc syndicat devenu un syndicat d'industrie, qui appartient obligatoirement, on n'admet plus de syndicat dans la nature. Tout syndicat doit appartenir à une fédération professionnelle, et tout syndicat doit appartenir à une union départementale. Donc on est là dans le schéma du socle du monde du travail, cette double reconnaissance, cette double représentation du travailleur par sa logique professionnelle et par sa logique territoriale interprofessionnelle. Et au-dessus, il y a la Confédération. La Confédération est assise sur cette double représentation des UD et des fédérations. Et ça, c'est un modèle unique dans le monde. Il n'y a pas un seul syndicalisme ailleurs qui repose sur cette double représentation. Partout ailleurs, les confédérations syndicales sont des regroupements de fédérations professionnelles. Et les congrès sont des congrès de fédérations professionnelles. En France, et toutes les centrales syndicales qui vont naître après la CGT vont reprendre ce modèle-là, on a toujours dans les équilibres internes des confédérations, on le voit à travers leurs instances, leurs bureaux, leurs commissions exécutives, leurs conseils nationaux, confédéraux, etc. Tout est fondé sur une parité de représentation entre l'approche professionnelle et l'approche territoriale. Il y a toujours des tensions internes, d'ailleurs, entre ces deux champs, ces deux façons de voir le monde social, parce que les fédérations, qui après vont gérer les conventions collectives, n'ont pas du tout les mêmes approches que les unions départementales, qui, elles, ont à voir avec la cité, avec les questions de chômage, que les fédérations ne voient que d'une manière très extérieure. Elles ne syndiquent que les gens qui ont du travail, par définition. Les chômeurs, c'est les UD qui les voient, quand elles les voient. Ça, c'est un peu perdu, mais bon, c'est quand même sur eux que ça tombe. Vous voyez les conflits en ce moment, la CGT qui a lancé ce mouvement des sans-papiers, là, c'est pas les fédérations qui peuvent organiser un truc comme ça. Ça passe manifestement par les structures territoriales. Donc on a, du coup, des échelons différents dans les organisations, et ça, c'est un mode d'organisation qui se met en place à cette période et qui a une incidence durable à l'intérieur du syndicalisme français. Alors, la CGT va évoluer, donc elle va mettre l'accent sur ces questions d'organisation. Et puis avec la montée de la guerre, on sent bien que, y compris la rhétorique sur la grève générale devient un petit peu difficile. La CGT décide, par exemple, d'appeler à la grève générale en cas de mobilisation des ouvriers. Elle dit, après tout, c'est La guerre, c'est comme le capitalisme. Hein. Si les bras s'arrêtent, le système tombe, et ben, s'il n'y a pas de soldats, s'il y a grève des bras pour faire la guerre, il n'y aura pas de guerre. Quoi, hein. C'est un peu l'utopie. Grève générale en cas de guerre, et personne ne répond à l'acte de mobilisation. Évidemment, la CGT sait très bien, en même temps, on le voit dans les débats, hein, elle sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de faire ça. Plus, bon, il y a une espèce d'emballement patriotique qui se crée dans les derniers temps avant la guerre. Elle réussit quand même à faire partager ce point de vue au Parti Socialiste. Elle a des rapports compliqués avec le Parti Socialiste. Avec Guedes, avec Jules Guedes, non, c'est très simple. Hein. Ils sont jamais d'accord. Donc ça, c'est très simple. Avec Jaurès, c'est plus ambigu parce qu'il y a un grand respect réciproque. Jaurès intègre très vite l'autonomie désirée de la CGT. Il la respecte. Il dit, bon, le syndicalisme a choisi en France d'être indépendant du parti. Il faut prendre acte de cette séparation, elle est liée à l'histoire. Et donc, bah, il faut regarder le syndicalisme pour ce qu'il peut apporter. Et d'ailleurs, il exalte la vertu du syndicalisme pour les ouvriers. Hein. C'est à travers le syndicalisme que se fait une prise de conscience, que la dignité de la condition ouvrière s'affirme aussi par le partage des luttes, etc. Donc là-dessus, il est, disons, de plein pied avec la CGT. Par contre, malgré tout, mais ça c'est normal, c'est un politique, il met l'accent sur le rôle central du parti. C'est-à-dire que pour lui, immanquablement, la suite du chemin du syndiqué, c'est la reconnaissance dans le socialisme. Et le socialisme, évidemment, c'est le parti politique qui peut incarner le programme, qui peut incarner la transformation socialiste. Donc, avec le Parti Socialiste, il y a des rapports d'équilibre qui parviennent à s'organiser à travers des individus comme Jaurès, qui va jouer un grand rôle pour apaiser les conflits entre les deux. Et d'ailleurs, les syndicalistes, fussent-ils d'ailleurs des anarchistes ou des syndicalistes révolutionnaires très radicaux, n'attaqueront jamais Jaurès. Il sera toujours une personnalité respectée dans la CGT. Et d'ailleurs, le jour l'assassinat de Jaurès, hein, donc le 31 juillet 1914, comme vous savez, c'est le premier mort de la guerre de 14, sur la tombe de Jaurès, c'est Léon Jouhaud qui prononce le discours. Et à la fois la reconnaissance du syndicalisme vis-à-vis du grand leader socialiste, et en même temps, c'est le moment que Jouhaud choisit pour rallier le Parti Socialiste dans la défense et rallier l'Union Sacrée. Hein, c'est-à-dire le fait que dans cette période de guerre, qui est une guerre défensive, vous savez que cette guerre de 14 est absolument extraordinaire, puisque tous les pays n'ont jamais fait que se défendre. Il n'y avait pas d'agresseur dans la guerre de 14. Hein, dans toutes les opinions publiques, ça a été vécu comme une guerre défensive. Ça, c'est le génie politique des dirigeants de l'époque. Mais la CGT a vaguement tenté de mettre en œuvre son mot d'ordre de grève générale, mais l'un d'entre eux, je crois que c'est Bourderon, qui a dit « Nous n'avons pas lancé le mot d'ordre, et heureusement, parce que c'est même pas la police qui nous aurait hâté, c'est les ouvriers qui nous auraient pendu. » Donc c'est vrai que dans les derniers jours, en tout cas, il y a eu une ruée vers la guerre, sans doute moins grande que ce qu'on a dit, mais enfin qui a tout de même existé. Donc je termine là. Pour être complet, il aurait fallu citer les premiers pas du syndicalisme chrétien en France, mais ils sont tellement modestes qu'avant 1914... que je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. On peut en reparler s'il y a des questions là-dessus. Moi, je pense le reprendre plutôt lorsqu'on parlera de l'entre-deux-guerres et de ce que devient ce syndicalisme de l'entre-deux-guerres, qui sera radicalement différent, y compris la CGT, d'ailleurs, hein, va connaître des transformations importantes. Et donc, je pense qu'il vaut mieux reprendre le syndicalisme chrétien dans sa profondeur historique, parce qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, et au moins des éléments qui peuvent expliquer, dans la période que je viens de parcourir, pourquoi le syndicalisme chrétien, lui aussi, naît avec retard en France par rapport à d'autres pays. Mais comme il commence à avoir de l'existence qu'après 1919, je propose d'en parler dans une séance ultérieure et de m'en tenir là pour l'instant. J'ai déjà été très long.